Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, aujourd'hui dans Au fil des pages, je vous propose d'entrer dans les coulisses d'une œuvre monumentale, celle qu'Henri Amouroux a consacrée à la grande histoire des Français sous l'occupation. Monsieur Amouroux, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et tout un chacun vous connaît comme historien, mais aussi comme journaliste et homme de presse. Nombreux sont aussi ceux qui vous écoutent à la radio. Enfin, vous présidez plusieurs jurys littéraires et c'est l'ensemble de vos activités que je souhaiterais évoquer aujourd'hui avec vous. Vous voyez, c'est un vaste programme, ne serait-ce que pour comprendre comment vous parvenez à concilier toutes ces activités de front. Alors, la première, c'est l'histoire. Je suppose que c'est votre activité principale, l'écriture. La grande histoire des Français, elle a pris naissance en 1976. Vos lecteurs vous ont adressé d'innombrables documents. Comment fait-on pour concilier les recherches historiques et les documents que vous envoient vos lecteurs?
Ben écoutez, c'est très difficile, parce que je travaille seul, et j'ai toujours travaillé seul. Donc, je suis à moi-même mon propre archiviste, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que je trouve ce que je cherche. Je ne trouve pas ce qu'on m'apporte ou ce qu'on m'apporterait, je trouve ce que je cherche. Si j'utilise ce qu'on m'apporte, je suis prisonnier de ceux qui me renseignent. Tandis que là, moi, je me dis, il y a telle piste, telle chose, il faut que je recherche, il faut que je trouve. Alors, si vous voulez, c'est assez simple. Je suis journaliste depuis l'âge de 19 ans et j'ai fait la vie que je voulais faire quand j'avais 13 ans. Donc, je ne vais pas me plaindre de quoi que ce soit. Je suis un homme heureux. Un homme heureux, c'est celui qui peut dire, je fais la vie que je voulais rêver, que j'avais rêvé quand j'avais 13 ou 14 ans. Le journaliste, c'est évidemment très ça va très vite, vous savez, dans le creux de la main, on a un peu d'eau et puis l'eau fuit entre les doigts tout de suite. Et tous les journalistes ont envie de se prolonger. L'article, ils savent très bien que l'article du mercredi sera oublié.
C'est éphémère.
Le surlendemain, si ça va bien. Mais beaucoup plus rapidement souvent. Donc, on se prolonge en écrivant, en prolongeant ses reportages à travers un livre. Ce que j'ai fait d'ailleurs, qu'il s'agisse de l'Indochine, qu'il s'agisse d'Israël, dans lequel je suis allé 12 ou 13 fois.
Non, mais c'est pas toujours que vous avez été correspondant de guerre pour Sud-Ouest.
Oui, mais bon, alors, j'ai fait ça. Et puis, à un moment donné, on a envie de faire, c'est en tout cas l'envie que j'ai éprouvée, d'aller plus loin et de faire quelque chose qui ne soit plus d'une dimension journalistique. Et lorsque j'ai eu l'idée, j'avais d'abord écrit La vie des Français sous l'occupation, en 1959, puis j'ai écrit un livre sur le 18 juin 40, puis j'ai écrit un autre livre pour lequel le général de Gaulle m'avait reçu en 64, puis j'ai écrit un livre qui s'appelle Pétain avant Vichy, livre pour lequel j'ai eu 400 lettres écrites à la même femme de 1912 à 1940, et c'est un tracé psychologique très intéressant, indiscutable, c'était pas écrit pour moi, c'était pas écrit pour Pierre, Paul, Jacques ou André, c'était écrit à une seule pour une femme, et ça avait pour destination une seule lectrice, bon, donc c'était très intéressant. Et puis, après, bref, il y a eu des changements dans ma vie journalistique, et je me suis englouti, c'est le mot d'ailleurs, englouti dans une grande histoire dont je savais qu'elle me prendrait 16 ans ou 17 ans. J'avais d'abord, c'était Robert Laffont qui a accepté de prendre ce livre. Et d'abord, c'était un livre en 8 tomes, ce qui était déjà pas mal d'ailleurs.
8 tomes de 700 pages au moins.
Ah oui, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Et donc, 8 tomes, et après, c'est devenu 10 tomes. J'aurais pu en faire 12, mais enfin, j'ai arrêté à 10. Mais 10 tomes, 8, donc puis 10. Je savais que j'en avais pour 17 ans. Oui. Oh non, 17 ans, 18 ans, 20 ans, bien entendu. C'est pas une dimension journalistique. Quand vous dites déjà 10 jours un journaliste,
c'est déjà long.
Beaucoup.
Très loin.
10 mois, n'en parlons pas. Alors, 18 ans, c'est autre chose, mais c'est ce que je voulais faire. Et j'ai vu qu'on pouvait y arriver. Il fallait simplement travailler beaucoup. Mon problème, à mon âge, évidemment, c'est le problème de ma mémoire. Je suis condamné à être mon propre archiviste et à tout faire reposer sur ma mémoire, à me dire, je me le dis plusieurs fois par jour, où as-tu lu ça? Où as-tu vu ça? Tu as vu il y a un an, il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 10 ans, telle et telle chose, où est-ce? Retrouve-le, remonte-le du puits de ta mémoire, qui est un puits profond, il faut plonger un seau. Et comme dans mon enfance, quand j'allais chercher de l'eau au puits, je suis de cette génération qui, en vivant à côté d'une grande ville, c'est une relativement grande ville, c'est Périgueux. Bon, eh bien, j'allais passer mes vacances chez ma grand-mère, qui habitait à Bassillac, à 18 ou 20 kilomètres à côté du terrain d'aviation de Périgueux, même sur la hauteur, et on allait chercher l'eau au puits. Et l'eau au puits, il n'y avait pas d'ailleurs de manuel pour remonter le seau. On lançait le seau,
à la main.
On le tapait contre les murs pour prendre un peu d'eau, puis on le remontait. Ben, c'est comme ça. Je suis obligé de lancer le seau dans le puits de ma mémoire, et puis de taper un peu le seau contre le mur, c'est-à-dire de titiller, de me dire « retrouve, retrouve, retrouve », et quelquefois, pendant tout un repas, en vérité, je fais un travail de remonter du seau pour que, à la fin du repas, je dise le nom que je cherche depuis quelquefois une heure et demie. Oui. C'est comme ça. Bon, j'ai vécu comme ça. C'est une mauvaise façon de travailler, certainement. Bon.
Et où effectuez-vous vos recherches, alors, proprement historiques?
Je les ai fait dans les livres, j'ai fait dans les archives. Je les ai fait avec beaucoup de documents envoyés par des lecteurs. J'étais parti d'une idée, si vous voulez. Bon, l'histoire, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas du tout faite dans les moments dramatiques. N'est pas du tout faite par les maréchaux, généraux, présidents du Conseil. Elle est faite par les peuples. Je crois beaucoup à ça. C'est ce qui m'a intéressé. C'était l'histoire, c'est la grande histoire des Français, du peuple français, à travers tous les avatars, à travers les circonstances de la vie. Il est bien certain que l'armistice de 40, pour parler d'événements que nous connaissons tous, l'armistice de 40 est voulu par le peuple français, c'est bien évident. Lorsque j'écris le second volume de ma série, le deuxième volume plutôt de ma série qui s'appelle 40 millions de pétainistes, il a été tiré à plus de 300 000 exemplaires, 340 000 exemplaires. Je n'ai reçu que 3 lettres de protestation, dont 2 commençaient ainsi. Monsieur, je n'ai pas lu votre livre, mais bon, j'ai envoyé à 2 de ces messieurs qui m'avaient envoyé leur adresse, à 2 de ces non-lecteurs, j'ai envoyé mon livre en leur disant, je vous l'envoie, lisez-le, et puis après, on discutera, on parlera. Je date chaque fois les choses. Mes livres sont datés. Pourquoi? Parce que l'histoire est une évolution permanente. L'histoire, surtout les périodes, toujours, mais bien sûr, mais les périodes dramatiques encore plus que les autres. Et il y a des gonds. Dans une maison, il y a des portes. Il y a des portes. Si ces portes n'ont pas de gonds, elles ne tourneront. La porte ne tournera pas. Et l'histoire est pleine de gonds. Qui sont des jours essentiels, par exemple.
Des jours qui font tourner l'histoire.
Tourner les choses, qui font que la porte s'ouvre. Par exemple, vous prenez entre le 20 juin 41 et le 24 juin 41. Ça ne fait jamais que 4 jours. Oui, ça fait 4 jours, mais le 22 juin, les Allemands entrent en Russie. Eh bien, c'est un jour essentiel.
C'est un jour essentiel.
Et puis, vous prenez en 41, toujours, en décembre 41, entre le 7 décembre et le 12 décembre, oui, ça fait très peu de jours, une poignée de jours. Dans cette poignée de jours, les Japonais attaquent les États-Unis et les Allemands, et les Italiens aussi, mais bon. Et les Allemands déclarent la guerre aux États-Unis. Si vous interrogez dans la Russie, en sortant tout à l'heure, nous interrogeons et nous demandons qui a déclaré la guerre à qui. On vous dira, c'est les États-Unis qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
C'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre aux États-Unis. Si l'Allemagne, qui ce jour-là scelle son destin, elle se condamne à mort ce jour-là. Naturellement, Hitler ne le pense pas, elle ne le sait pas, elle ne le croit pas. Parce que se pose tout le problème de l'ignorance d'un homme qui n'était jamais sorti de son pays. Pratiquement, il va un peu en Italie, il est autrichien, il est en Allemagne, et puis après il va une ou deux fois en Italie pour être reçu par Mussolini. Il n'est pas sorti, et il est victime de sa propagande, il est victime de tout ce qu'écrit Goebbels et Philippe. Il n'a pas été le seul, d'ailleurs. Il finit par être intoxiqué par la propagande dont il est le créateur et l'animateur et l'inventeur et le bénéficiaire d'abord, et ensuite, après, la victime, c'est bien évident. Alors, il y a des, comme ça, des jours qui font tourner les choses, et il faut, dans ces périodes, c'est toujours des périodes dramatiques, courtes et longues à la fois, il faut, moi, à mon avis, admettre que l'histoire n'est pas un bloc. La Révolution française, naturellement, n'est pas un bloc. Et l'histoire des années 40 n'est pas un bloc. C'est ridicule
d'imaginer que ce soit un bloc. Les sentiments des gens, les comportements,
les sentiments,
ne sont pas des blocs non plus.
Non, les réactions, les situations dépendent de la géographie. Il n'y a pas de vérité.
Est-ce que ce sont toutes ces nuances de jugement que vous voulez introduire aussi dans votre œuvre pour qu'on ne pense pas tout blanc, tout noir?
Ben écoutez, moi je déteste le manichéisme. Le ciel n'est pas bleu tous les jours, il n'est pas gris tous les jours. Le ciel, mon Dieu, souvent est parcouru de nuages et l'histoire est un ciel parcouru de nuages. Et il est très stupide de voir... elle existe, cette école manichéenne. Malheureusement, elle fait beaucoup de mal en France pour l'étude de ce que j'étudie, c'est-à-dire la période 40-45, elle fait beaucoup de mal parce qu'elle dispose de moyens, des médias, elle dispose de moyens de diffusion importants, relativement, car mes livres ont eu beaucoup plus de lecteurs
que
ceux de l'école manichéenne, beaucoup plus. Mais l'école manichéenne étant une école finit par imposer une ligne de conduite politiquement correcte, ce qui est une stupidité et une absence totale de curiosité. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de ne pas être victime de soi-même, c'est de ne pas être victime de ses opinions, c'est de ne pas être victime de son bulletin de vote, c'est d'écrire ce que l'on a en conscience, de se dire je peux me tromper, je me tromperai, mais je ne mentirai pas. Il n'y a pas de vérité, si vous voulez, il y a pas. Mais il y a l'honnêteté. Il n'y a pas de vérité. La vérité est le même événement. Il dépend d'abord de votre situation géographique, le jugement. Le même événement, le même jour de juin 40, par exemple, est différemment vu si vous êtes à Lille ou si vous êtes à Nice,
bien sûr, oui.
Différemment pensé. Puis, il dépend de votre environnement familial, il dépend de votre âge. En un temps, puisque je parle toujours naturellement de la période 40-45, un peu avant, un peu après. Quels sont les enseignants? C'est pas comme aujourd'hui la télévision. La télévision est la grande machine à informer et à désinformer. Mais en 39...
Il n'y a pas de télévision.
Non, il n'y a pas de télévision, il y a très peu de radio. Et quels sont ceux qui apprennent? Ce sont les prêtres, les instituteurs et la famille. Donc, vous dépendez étroitement de votre famille, vous dépendez des lectures de votre famille.
L'entourage immédiat, en fait.
L'entourage proche. Et voilà, alors, les gens s'orientent comme ça, plus ou moins bien.
Alors, Henri Amourou, vous dites que 300 000 lecteurs ont
non,
lu
non,
au
acheteur,
moins
acheteurs,
livres.
Acheteurs, acheteurs.
Mais 300 000, lecteurs, ça fait beaucoup plus, évidemment.
Ouais, bien sûr.
Mais vous avez aussi donc, eu la joie, je crois, de voir votre œuvre publiée dans bouquin. Quel sentiment avez-vous éprouvé d'être dans
Un sentiment de vanité, alors, pour vous dire
vanité.
La vérité. Oui, mais bien sûr. Je vais vous dire pourquoi, d'ailleurs. Bien sûr, pas la peine de raconter d'histoire. Bouquin, il y a, à l'exception des confrères qui font des dictionnaires, indispensables, il n'y a pratiquement pas d'auteurs vivants. Jusqu'à la mort de Guy Scheller, il y avait Courrière, qui est un de mes confrères, un très bon confrère, il y a eu Yves Courrière sur la guerre d'Algérie, et moi, deux vivants.
Et deux journalistes.
Oui, et on se dit, on regarde la liste de ceux qui sont là, un bouquin, Shakespeare, Victor Hugo, les Goncourt...
Vanitas des Vanitas, alors.
Si, lorsque Guy Scheller m'a dit, voilà, j'aimerais bien publier vos livres dans un bouquin, c'est mes 10 volumes, on en fait 5, on en fait 5 dans un bouquin. Si, j'ai été très heureux, parce que si vous voulez, pour moi, c'était de consécration. J'avais Michelet, Ten, et puis on est à côté. Si, bien sûr, pourquoi la vanité? C'est pas un sentiment bas systématiquement.
Alors vous faites aussi beaucoup de conférences, vous vous déplacez dans de multiples endroits de la France pour aller parler de vos livres, des sujets de l'époque que vous traitez, donc de la guerre. Est-ce que vous avez plaisir à rencontrer vos lecteurs? auteur. Qu'est-ce qui vous motive à
ce qui motive,
ne pas rester en chambre?
Ce qui motive, c'est ma faiblesse de caractère.
Pardon.
Parce que je réponds oui quand je devrais dire non. Encore hier, avant-hier, une dame que j'ai rencontrée, que je ne connaissais pas il y a un mois, que j'ai rencontrée donc, à l'occasion d'un prix littéraire, le prix de la Vallée au Loup, m'a téléphoné pour me demander si je viendrais faire une conférence. Et comme elle est très sympathique, j'ai dit oui, bon, mais très bien. Bon. Et ça me passionne de parler des sujets que je connais. Je refuse absolument de parler des sujets que je ne connais pas, même s'ils sont en apparence pour les gens qui savent pas tout ce que j'ignore. Moi, je sais très bien que tout ce que j'ignore est immense. Ils pensent que me demander quelque chose en marge, 2 ans avant, 3 ans après, oui, mais il faudrait que j'apprenne. Et non, je veux plus continuer à apprendre comme ça, trop. Et j'aime mieux à creuser toujours les mêmes problèmes. Alors, parce que, d'autant plus que je parle toujours sans notes. Donc
oui,
je parle 1 heure et quart sans notes.
Passionnant vivant. Oui.
Je parle sans notes en prenant des gros risques d'ailleurs, parce que lorsque j'ai parlé, parlé plusieurs fois aux conférences du Figaro Magazine, c'est au Théâtre des Variétés, et j'ai failli non seulement me faire mal, mais j'aurais tué sans doute 2 ou 3 centenaires qui étaient au premier rang, puisque j'ai failli tomber de la scène. Puisque je marche sur la scène, j'ai le micro à la main, je ne veux ni table, ni chaise, ni verre d'eau, ni bouteille, naturellement, puisqu'il n'y a pas de verre, je ne boirai pas la bouteille. Bon, donc j'ai failli tomber, et là, soudain, j'ai entendu « Oh !» de stupéfaction et d'horreur.
Et vous vous rendiez plus
compte, vous étiez
au bord.
Et alors, bon, moi, peut-être que je m'en serais sorti assez bien, mais le premier rang des conférences est occupé par les centenaires, donc, naturellement, il y avait pas mal de fractures du col du fémur, et là, au moins, je tombais au moins,
on
évitait la catastrophe, et le fait divers en première page, ce qui était, là encore, une vanité supplémentaire.
Alors Henri Amouroux, vous présidez beaucoup de jurys littéraires, ce qui est une manière aussi de soutenir le livre. Moi, j'ai compté 4 prix, je ne sais pas si vous en faites peut-être plus, que je n'en connais, le Grand Prix Albert Londres, le prix Chateaubriand de la Vallée au Loup, le prix des archives,
oui, c'est vrai.
Et le prix Louis Powell.
C'est vrai, oui.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Non, c'est très bien, ça suffit, vous savez.
Alors je sais que votre prix favori est celui.
Écoutez, le prix Albert Londres, oui, le prix Albert Londres.
On en parlera entièrement dans une émission, donc on ne va peut-être pas consacrer, sauf quelques petits mots. Le prix Chateaubriand, ça vous intéresse parce que c'est l'histoire?
Le prix Chateaubriand, oui, c'est l'histoire. Et puis, ça a été aussi un problème d'amitié. C'est Jean d'Ormesson, qui est un ami que j'aime beaucoup. D'abord, infiniment de talent, qui a écrit un très grand livre qui s'appelle « Au plaisir de Dieu », dans lequel il y a un chapitre bouleversant qui s'appelle « Le vent du soir ». Donc, c'est Jean d'Ormesson qui m'a demandé de venir au prix Chateaubriand. Et bon, je suis venu là. Le prix des archives de France, c'est Perfitte. Alain Perfitte, qui avant sa mort, 3 semaines avant sa mort, m'a demandé de prendre sa suite et j'ai dit oui. Le prix Powell, c'est Madame Powell, c'est Dina Powell, qui m'a demandé de venir. J'aimais beaucoup Louis Powell. J'ai travaillé, je n'étais certes pas celui qui avait travaillé le plus longtemps avec lui, ni le plus constamment.
Mais vous avez travaillé au Figaro Magazine.
Mais j'ai travaillé au Figaro Magazine. Et bon, c'est
dit
oui.
Continuez-vous à écrire des articles pour la presse régulièrement?
Oui, j'écrivais longtemps, jusqu'à 6 mois, dans le Figaro Magazine, le Figaro. Ça m'a l'air de s'être un peu arrêté, estompé, mais enfin, reprendre, on ne sait jamais, ça dépend. Je ne sais pas, j'écris toutes les semaines dans un journal de Lyon, dans Lyon Figaro plus exactement, toutes les semaines, tous les vendredis.
Pour la Provence aussi, de temps en temps?
Non, j'ai écrit pour la Provence, mais ça s'est arrêté il y a 3 ans, parce qu'il y avait un rédacteur en chef qui partait à la retraite. Alors le rédacteur en chef qui partait à la retraite, il m'a remplacé, certainement très bien, d'ailleurs c'était un très bon rédacteur en chef. Mais je voudrais surtout écrire mes livres, d'autant plus que j'ai des tas de projets, mais j'ai à peu près 10 ou 10 ans. Je peux, là, comme ça, à l'instant, vous mettre la valeur de 10 ans de projet aujourd'hui. Donc, peut-être si dans 8 jours, 15 jours, nous nous revoyons, j'en aurai encore d'autres, peut-être. Mais là, pour l'instant, je peux aligner 10 ans de projet. Et évidemment, le problème, c'est le temps, puisque je suis en lutte permanente contre le temps. J'essaie de me lever de bonne heure. pour travailler, je sais pas, 5h30, 6h, moins le quart, étant ma table de travail. Je peux travailler une nuit entière, je peux passer la nuit entière pour travailler, mais fais moins.
Peut-être pas tous les demi, peut-être pas tous les
jours. Ah non, non, non. Mais enfin, il y en a qui travaillaient davantage, comme Max Gallo, qui se lève tous les matins à 4h, 3h30. Bon, c'est une discipline. J'avais un auteur que j'ai bien connu, parce que j'ai fait la critique littéraire pendant de longues années, puis j'étais au jury du Renaudot pendant 17 ans, j'ai fait la critique littéraire au Sud-Ouest pendant 17 ans. Après cette période de la Libération, qui a été une période de révolution, ceux qui sont dessus sont dessous, ceux qui sont dessous sont dessus, c'est la révolution. Et donc là, j'ai travaillé, pendant, j'ai fait la critique littéraire pendant 17 ans, 18 ans. Et j'avais connu Marcel Jouhandeau, je ne crois pas qu'on le lise beaucoup encore aujourd'hui, qui était un très grand écrivain. Et lui se levait tous les matins à 4 heures pour écrire. Voilà, donc... Mais il me disait, voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez, mais moi, je ne fais pas.
Ah, ça dépend peut-être des natures. Alors Henri Amoureux, puisqu'on était dans les coulisses de votre œuvre, est-ce qu'on peut avoir le secret de votre prochain livre ?
Oui, ce n'est pas un secret d'abord. Il s'appellera « Les racines des passions » et il concernera l'année 40-41, parce que mon grand-père a été fait prisonnier à Sedan en 1870. Quand je voyais mon grand-père, Sedan, pour moi, c'était
très, très ancien.
Très, très, très ancien. J'avais 14 ans, 15 ans. Alors, je me comprends tout à fait, et cela ne m'indigne pas, ne me surprend pas, ne me choque pas. C'est tout à fait normal que pour les gens qui ont 30 ans, 35 ans aujourd'hui, ces époques de 40 sont très, déjà très, très loin. Très loin, ça va faire pour trois quarts de siècle bientôt. Donc, c'est très loin. Et qu'on ne comprenne pas certaines hostilités. Je prends certaines passions de 40 qui ont été très vives, d'un côté comme de l'autre. Car comment s'est-on retrouvé en guerre civile à la Libération ? Une guerre civile qui continue à laisser des traces, une guerre civile qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas apaisée, qui finira, je pense, avec ma génération, peut-être un tout petit peu plus tard, parce qu'il y a des enfants qui ont épousé les querelles des pères. Mais comment on se retrouvera, comment et pourquoi ? Par exemple, pourquoi l'hostilité très violente en 1940, c'était un sujet que je traiterai, à la franc-maçonnerie. Bon, aujourd'hui, la franc-maçonnerie, on a même fêté le 275e anniversaire, oui. Ce que j'avais jamais vu dans l'histoire du monde, fêter un 275e anniversaire, mais enfin bon, comme tout arrive, il faut voir ça, le 275e anniversaire du Grand Orient. Bon, pourquoi pas, très bien. Et pourquoi en 40 cette haine, cette violence, notamment la violence de l'Église qui se vraiment sanctifie presque, béatifie presque le maréchal Pétain, qui n'était pas un homme qui fréquentait constamment l'Église, dit le confessionnal, qui aurait disait avoir aimé deux choses dans sa vie, les femmes et l'infanterie, ce qui est vrai d'ailleurs, après tout, pourquoi pas. Et donc, pourquoi ? Parce que, et c'est très net quand vous étudiez les bulletins diocésains, l'hostilité féroce, les éloges adressés au maréchal Pétain des juillet 40 ou 30, pourquoi ? Parce qu'il avait supprimé la maçonnerie et fait revenir les congrégations. Alors, si je dis congrégation, ça ne veut plus rien dire. Si je dis inventaire, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf auprès de quelques personnes de mon âge. Mais il faut se souvenir que les gens qui avaient vécu 1900, bon, avec 20 ans en 1900, vous avez 60 ans en 1940. Et souvent, vous avez un poste important, vous occupez un poste important. Donc, tous ces gens qui avaient vécu non seulement 1900, avant, mais leurs parents leur avaient parlé. 1905, on va célébrer le centenaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Très bien. Il faut quand même savoir que ça s'est déroulé dans
très
un climat
douloureux.
Très douloureux. Oui, aujourd'hui, tout est apaisé. C'était en effet une loi saine, raisonnable, etc., etc. Ça s'est déroulé dans un climat abominable. Et il y a eu, quand je parle des inventaires, c'est-à-dire les inventaires des églises, lorsque je pose la question, et si je la pose aux auditeurs, combien y a-t-il eu d'inventaires en 1903, 4, 5, combien y a-t-il eu d'inventaires en France ? Eh bien, il y en a eu plus de 68 000, c'est-à-dire 68 000 églises, villages à travers l'église, villages à travers le couvent, villages à travers l'institution religieuse ont été touchés, concernés.
Voilà,
plus ou moins, il y en a certains qui se sont émus, d'autres qui ne se sont pas émus, Mais certains se sont émus d'une façon considérable. L'expulsion des Chartreux, la grande Chartreux, mais c'est une histoire de feu de Dieu, si j'ose m'exprimer ainsi à cette radio académique. Et en parlant de ce problème de l'expulsion des Chartreux, il y a un régiment d'infanterie mobilisé, il y a des gendarmes mobilisés, il y a des sapeurs pour briser les portes mobilisés, puis il y a 27 moines, il y a tout ce monde là qui est venu, et puis il y a 27 moines, oui, mais il y a 1600 ou 1700 paysans qui, eux, viennent protéger les moines. Donc, c'est cela.
C'est pour qu'on n'oublie pas.
C'est la suite. Non, oui. Non, les choses s'expliquent. Les passions s'expliquent. Elles ne tombent pas du ciel, elles ont des racines. Exactement, elles ont des racines, comme l'hostilité de Gaulle-Pétain a des racines. Et pourquoi de Gaulle a-t-il une violence telle avec Pétain? Pourquoi? Bon, tout ça a des racines.
Vous êtes l'homme des pourquoi dans l'histoire.
Ben non, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui est le plus beau? C'est d'essayer. D'essayer de comprendre et d'essayer de faire comprendre que rien n'est simple, que tout est complexe et que c'est à travers la complexité qu'on peut prendre du plaisir. Sans ça, il n'y a aucun plaisir à dire le blanc, le noir, ça n'arrive à rien.
Henri Amouroux, pour cette leçon de morale, de vérité, de lucidité, eh bien, nous vous remercions beaucoup. J'espère que nous allons pouvoir vous entendre dans une autre émission.